Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas pu venir pour des raisons professionnelles. C'est toujours un manque de ne pas être là. Et tant que c'est un manque, ça me fait plaisir que vous me manquiez et que ces moments avec vous me manquent. Le jour où ça me manquera plus, c'est qu'il y aura un problème. Et justement, le fait de me dire pendant ces 3 semaines, tu as des choses à faire, des obligations professionnelles, je me demandais, mais est-ce que c'est important de faire passer avant le culte? Est-ce qu'il y a une sorte d'obligation du culte du dimanche matin? Enfin, qu'est-ce qu'on doit à Dieu? Qu'est-ce qu'on doit à César? Et à quel moment on se dit, c'est normal que je fasse ça et que je fasse passer mes activités professionnelles avant mes activités, avant ma vie chrétienne? Que je me donne tous les moyens de me donner le choix de venir ou de ne pas venir. Tout ça est un peu tourné dans ma tête. Et puis hier, vous avez vu que c'était le premier anniversaire des Gilets jaunes. Quand je suis venu là du Tignet, le grand carrefour de Saint-Jacques, qui était vide et plein. Enfin, plein, non, il était vide. Enfin, il y avait quelques restes, il y avait des ballons. Mais hier, entre Antilles et ici, il y avait du monde un peu. Et je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Chaque fois qu'on vient au culte, on traverse le monde, le dimanche matin, pour venir ici. Et ce monde-là est toujours très loin du nôtre, de ce qu'on retrouve là. C'est, à chaque fois, j'en parle régulièrement d'ailleurs, en introduction, ça me bouleverse quelque part, de me dire, mais comment ça se fait que nous, on se lève pour venir ici? Quand on se met pas des contraintes professionnelles sur le dos pour ne pas venir, et que eux ne viennent pas, qu'est-ce que ça dit du monde? Est-ce que ça dit que nous sommes dans l'erreur, que eux sont dans l'erreur, que nous sommes dans l'illusion? Alors quand je voyais les gens justement des gilets jaunes, je dis mais eux se battent au lieu d'aller à l'église, ils sont là pour un monde meilleur, ils disent retrouver la fraternité entre eux, recomposer du lien social. S'il dit ça, c'est qu'ils sont en manque de ce côté-là. Et plus généralement, c'est vraiment des lieux communs, des portes ouvertes que j'enfonce. Vous êtes comment? Je suis très frappé par le manque d'amour des gens entre eux. Tout est prétexte à violence, tout est prétexte à rejet, à du mépris, à du jugement, voire à de la haine. Il y a une violence latente qui est exposé dans notre société, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux. C'est pas propre à notre époque, évidemment. On sait que le fond de l'homme est mauvais, à cause toujours des mêmes raisons, la peur de manquer, la peur de mourir inconsciemment, qui fait qu'on se dit qu'il faut en profiter pendant qu'on est là. Le désir d'être connu, ça va avec la jalousie, ça va avec l'envie, la peur de manquer, je disais. Mais aujourd'hui, tout est démultiplié par les moyens de communication. Donc, des violences, des drames qui avaient lieu précédemment, on n'était pas au courant, maintenant on est au courant, et tout ça est grossi, et donne le sentiment que notre société est de plus en plus agressive, et nous vivons dans cette agressivité, nous en faisons partie. Forcément, il y a des moments où nous sommes nous-mêmes agressifs. Il n'y a aucune raison que nous soyons imperméables à ce que la société diffuse, que nous en faisons partie. Et pourquoi on a ce sentiment-là? Parce que ce que je dis, c'est que tous les sociologues l'expliquent, je n'invente absolument rien, c'est que l'individualisme est vraiment revenu au cœur de notre population, et une population de plus en plus nombreuse en plus, et de plus en plus regroupée. Alors l'individualisme, quand on vit seul dans son champ, ça va. L'individualisme, quand on peut se partager un espace à peu près correctement, ça peut aller, mais quand on vit les uns sur les autres, quand on partage les mêmes rythmes, les mêmes obligations, cet individualisme-là devient extrêmement dangereux parce qu'il fait de l'autre un adversaire potentiel au travail, dans le voisinage, au supermarché, à la caisse. On a mis l'exemple dans lequel nous sommes nous-mêmes pris dans cet individualisme qui peut nous faire devenir, et on se dit parfois, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je suis censé être chrétien. Et je deviens rapidement un fauve pour l'autre. Alors, toujours dans mes portes ouvertes, je pense que cette violence-là, cette agressivité qui se développe, elle a une seule racine, parce que l'homme est malheureux. Quand on est heureux, on n'a pas besoin d'être agressif, on est content. Du moment où on va bien, on est gentil avec tout le monde, on est même, on pardonne facilement. C'est le malheur ou le sentiment du malheur qu'on a en nous qui nous rend comme ça. Il nous donne cette agressivité, ce besoin de confrontation et cette nécessité de remettre sur l'autre le sentiment qu'on a de ne pas être bien. Vous allez dire, mais tu es loin d'une prédication, loin de Dieu. Non. Parce qu'encore une fois, nous sommes des gens de ce monde. Et ce monde, comme je disais, quand on vient le matin, on le prend en pleine face. Et nous, on doit vivre notre foi chrétienne dans ce monde-là. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Les Israélites, il y a 3000 ans ou plus, quand ils étaient dans le désert après avoir quitté l'Égypte, ils étaient dans ce même monde-là. On peut prendre toutes les époques, on a cette violence entre les gens qui l'attendent, qui est toujours existante. Ils étaient partis de chez les Égyptiens, ils étaient esclaves, ils avaient l'armée aux trousses. Donc c'était en quelque sorte des migrants, ils avaient faim, ils avaient que la manne pour se nourrir, la peur du lendemain, ils avaient vraiment pas de quoi être sereins. D'ailleurs, il y a plusieurs épisodes, on voit qu'ils sont agressifs entre eux, ils sont agressifs contre Moïse, et tout ça pour arriver au fait que Dieu va leur donner des règles pour que ça fonctionne. Au bout d'un moment, on va essayer de vivre ensemble, et je vais vous donner, vous savez tous, les 10 commandements. Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, les 10 commandements. Parce que tout ce que je viens de dire, ça mène aux 10 commandements. Tout le monde recherche 10 commandements pour que la société fonctionne, pour que on puisse vivre ensemble, que le sentiment du malheur diminue, donc que l'agressivité diminue, et que la vie sur Terre puisse être vécu correctement et de bonne façon. C'est pour ça que je suis revenu sur nos Israélites qui, à leur façon, dans leur micro-société qu'ils créent à cette époque-là, avaient, tout comme une micro-société qui se reproduit, qui se créerait dans n'importe quel cadre, retomberait sur les mêmes soucis de vivre ensemble, d'envie, de désir, d'attente, de partage, etc. Donc, Dieu nous donne les 10 commandements, donc 2 fois dans Exode et dans Deutéronome, ça vous le savez. Alors, je vais pas vous les relire, parce que vous les connaissez, sans doute. Ça m'intéresse pas de les relire sous cette forme-là. Mais j'ai trouvé un juif du 1er siècle que vous connaissez, l'historien Flavius Joseph, qui a écrit dans les Antiquités judaïques, il a fait un résumé. Alors, autant écouter un résumé des 10 commandements faits par un juif, au moins, on est sûr de ne pas faire de graves erreurs. Et voilà ce qu'il dit. Tous entendent une voix venue d'en haut, elle leur parvient à tous de manière qu'ils ne perdent aucune de ces 10 paroles que Moïse a laissées écrites sur les 2 tables. Ces paroles, il ne nous est plus permis de les dire explicitement, en toutes lettres, mais nous en indiquerons le sens. C'est ce qui m'intéresse. La première parole nous enseigne que Dieu est un, qu'il ne faut vénérer que lui seul. La deuxième nous commande de ne faire aucune image pour l'adorer. Le troisième, de ne pas invoquer Dieu en vain. La quatrième, d'observer chaque 7e jour en nous abstenant de tout travail. La 5e, d'honorer nos parents. La 6e, de nous garder du meurtre. La 7e, de ne point commettre d'adultère. La 8e, de ne point voler. La 9e, de ne pas rendre de faux témoignages. Et la 10e, de ne rien convoiter qui appartienne à autrui. J'aime bien ce résumé succinct qui va à l'essentiel par un juif qui a évidemment étudié tout cela et qui peut se permettre de dire, voilà, la suite substantifique-moi des 10 commandements, parce que si vous les relisez, c'est un peu plus long, c'est un peu plus entouré, avec tout le respect que je dois aux tables, hein, évidemment. Voilà. Donc on va partir de ces 10 commandements-là, j'essaie de voir comment ce qu'ils me racontent et peut-être ce qu'ils peuvent nous raconter, encore une fois sans rien inventer de nouveau, et en essayant à chaque fois de les remettre au goût du jour de notre quotidien, parce que voilà, on passe notre temps à étudier des tranches d'histoire, ça n'a pas grand intérêt pour notre vie actuelle. Donc le premier, tel que Flavius Joseph le dit, Dieu est un, il ne faut vénérer que lui seul. Ce que dit qui se versait à contrario, en quelque sorte, en faisant la base, c'est que si le verset dit ça, Dieu est un, c'est que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, il ne peut pas être un. On ne peut pas dire qu'il faut ne vénérer que lui seul. La première clé du bonheur humain, parce que je parlais du malheur tout à l'heure, est dans cette vérité. Nous ne sommes pas seuls. Si on peut dire Dieu est un, c'est que Dieu existe. Et toutes les amitiés en gilet jaune sur tous les carrefours de France ne remplacent pas la rencontre avec Dieu. Toutes ces rencontres, ces besoins, ils le disent dans plein de documentaires, ce lien social qui se crée, c'est évidemment que ça ne remplacera jamais cette rencontre avec Dieu. Nier l'existence de Dieu, c'est se couper du sang qui nous fait vivre. Et tout ce qui veut le remplacer est insuffisant, idéal politique, scientifique, etc. Croire en Dieu, et le Dieu unique, et pas un melting pot de superstition, c'est la base de notre pyramide. Qui va nous faire tenir debout, qui va faire qu'on va pas être trop déséquilibré. Si Dieu commence par ça, les 10 commandements, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens tout ce qu'on veut, les aimer, leur apporter de la nature, les faire venir dans l'église, leur parler d'eux-mêmes, les aider, les comprendre. Au bout d'un certain temps, ça sera du vent. Tout ça n'est valable que parce que Dieu existe. C'est la base de la pyramide. Si Dieu n'existe pas, ou si nous ne voulons pas que Dieu existe, ou si nous ne croyons pas que Dieu existe, ou si ceci ne nous intéresse pas, tout ce qu'on pourra faire autour de notre foi et autour des gens est totalement vain et inutile. Dieu est un, il ne faut vénérer que lui seul. Le deuxième commandement, ne faire aucune image pour l'adorer. Alors, on va avancer par étapes, et ces commandements sont très bien faits, parce que l'un n'existe que parce que l'autre a été assimilé. On peut pas les inverser. On peut pas mettre le 8 avant le 4, le 7 avant le 2. Le premier, ça. Le deuxième. Dieu existe, on est d'accord. Okay. À partir de ça, comment on peut progresser? Dans la recherche, encore une fois, c'est la base de ce que je vous ai raconté. Comment on peut être heureux, moins malheureux? Comment on peut vivre ensemble? Comment on peut éliminer la violence? Enfin, tout ce qui fait notre quotidien. Donc, ne faire aucune image pour l'adorer. Une fois qu'on a acquis cette foi, il faut pas la dévoyer. Il faut pas la réduire à notre petite sphère humaine. Faire une image de Dieu, quelle qu'elle soit, une croix, une statue, ce que vous voulez, quand vous avez l'embarras du choix, c'est enlever à Dieu sa majesté, c'est enlever à Dieu sa puissance, sa force, son éternité, c'est le réduire à notre image. Nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu n'est pas fait à notre image. On ne réduit pas Dieu à une église, à un livre, à une statue. Dieu est tout, Dieu existe. Et donc, c'est à nous d'aller monter vers la perception de ce qu'on peut comprendre de lui. C'est pas à nous d'aller le tirer vers nous et de le réduire à ce que nous pensons pouvoir comprendre. Fondation de notre pyramide, Dieu existe. Il est là, il est unique. Deuxième étage de notre... Enfin, premier étage, qui est d'abord le fondement, premier étage, c'est monte vers Dieu, va vers lui. Ne lui réduis pas ce dont tu as besoin, à ce que tu crois pouvoir comprendre. Et la folie a une tendibilité de te dire, je peux tout comprendre, je vais vers lui. Et c'est à moi de faire l'effort, et pas à lui d'être forcé de se réduire à ma petite perception. Troisième commandement, toujours je reprends les termes de Frère Joseph, ne pas invoquer Dieu en vain. Dieu existe et on le respecte et on le prend dans tout ce qu'il est, dans toute sa force, dans toute sa grandeur. Si Dieu est tout, comme on vient de voir, on le respecte. On ne l'utilise pas à nos fins personnelles. On est ici pour lui et non le contraire. Notre deuxième étage, notre pyramide, c'est qu'on est au service de Dieu. On ne l'utilise pas. C'est pas une rencontre gagnant-gagnant. C'est une rencontre, nous on était perdants, lui il est gagnant de toute façon. C'est une rencontre où il va tout me donner parce que je vais être prêt à tout lui donner et à tout prendre et pas à l'utiliser aussi pour mes fins personnelles. À une époque, je l'ai déjà dit 20 fois, j'ai été franc-maçon. Et je suis resté 10 ans, et je suis parti, donc parce que ça me convenait plus, parce qu'il parlait de choses générales, et moi je connais Dieu, donc je veux dire, voilà, bon, ça c'est autre chose. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait des gens merveilleux dedans, vraiment des gens de grande qualité. Et à un moment ou l'autre, on était tous moi, y compris, parce que c'est des gens qui ont une certaine installation dans la société, souvent, eh bien, on en arrivait à profiter de telles connaissances pour avoir un passe-droit, chacun selon son activité professionnelle, profiter de sa connaissance au sein de cette franc-maçonnerie pour se dire, tiens, bah, en plus, ça peut m'aider pour telle chose. Et les petits services, toute bonne foi, il n'y avait rien d'illégal, se mettaient en place comme cela. Et au bout d'un certain temps, pourquoi pas? Société humaine, à la limite, on fait ce qu'on veut. Mais avec Dieu, on ne peut pas tomber dans cette possibilité-là. Et on en a l'envie, parfois, on en a le... Et c'est humain de dire, écoute, je suis en plein dedans, voilà. Alors, si en plus, on pouvait peut-être faire quelque chose pour cette chose-là, ça serait pas mal. Dieu sait, Dieu fera. Dieu est plus fort que nous. Ne nous concentrons pas sur une forme de demande et de prière qui n'est pas digne de ce tout qu'il est. Si on croit en lui, et si on sait qu'il est tout, faisons-lui confiance. Mais ne le réduisons pas à une espèce de demande self-service sur des choses très personnelles. Il le sait. Alors, on peut dire, je souffre de telle chose, je suis pas bien, mais ne le réduisons pas à... Ne l'invoquons pas en vain. Voilà, il a du boulot, il a des choses à faire, si je suis un peu trivial. Il sait. Gardons notre place de petit humain face à sa grandeur à lui. C'est ça que dit ce troisième commandement. Le quatrième commandement, observe chaque septième jour en nous abstenant de tout travail. Et ça rejoint ce que je disais en préambule par rapport à mes activités. Si nous sommes au service de Dieu, il faut lui consacrer du temps. Donc, si on croit qu'il existe, si on croit qu'il est tout, et si on croit qu'il n'est pas nos services, mais nous sommes aux siens, en quelque sorte, il faut que nous ayons notre Shabbat à nous, en quelque sorte, pour lui. Il ne s'agit pas de tout abandonner, encore une fois, mais nos ambitions personnelles, utiles et nécessaires à notre survie et à la marche de la société, ne peuvent être une fin en soi. Ce commandement, c'est pas celui d'aller prendre un bâton de pèlerin et d'aller, pas forcément, pour certains peut-être, mais c'est celui de l'appel à la prière, au partage avec notre communauté, à la lecture de la Bible, ce dont je vous parlais au début, mes 3 semaines sans vous, d'accord, j'avais des bonnes raisons, mais si j'aurais pas pu me débrouiller pour venir chanter, venir prier, venir partager, non pas parce que je le dois, mais parce que je suis lucide avec mes 3 premiers étages de ma pyramide. Ce fameux septième jour, ce fameux sabbat, pour nous chrétiens, c'est le commandement du débranchement aux prisons du quotidien. Travail, sport, hobby, famille, etc. qui nous éloignent de Dieu lorsqu'ils deviennent incontrôlables. Il y a une chanson de France Gall qui s'appelait Débranche. Vous vous souvenez, pour les plus anciens. Voilà. Quand est-ce qu'on débranche? Quand est-ce qu'on a l'honnêteté de se dire à soi-même, je mets des écrans entre lui et moi, parce que, à un moment, je considère que je suis plus important que ce que je peux vivre avec lui. Ce quatrième commandement, c'est être cohérent dans notre relation avec Dieu. Et pourquoi on est cohérent dans notre relation avec Dieu? On doit l'être. Je dis dans la prière, dans la communion, dans la lecture de la Bible. C'est parce que on est cohérent avec Dieu, parce que on le respecte. On le respecte parce qu'il est tout, et il est tout parce qu'il existe. Et là, je fais le sens inverse. Vous voyez, on monte. Et là, on a vraiment une bonne base, là. Solide. C'est ça que disent les 4 commandements. Les 4 premiers. Ils parlent de Dieu. Que de Dieu. Et nous, de notre relation vis-à-vis de lui. Et une fois que ça c'est fait, cette pyramide elle est bien en place, on va passer à une relation horizontale. La relation verticale est établie, notre pyramide est bien en place, et le 5e commandement, c'est, l'ami Joseph le dit, c'est honorer vos parents. Il dit, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est bizarre, passe de Dieu aux parents comme ça rapidement. Mais non, ça a du sens. Donc, une fois cette relation verticale établie, acceptée, cohérente, en place, on peut s'occuper de soi, de notre horizontalité, en quelque sorte. Et c'est dans cet ordre-là, si j'étais britannique, je dirais « God first », Dieu en premier. Et la première chose à faire, c'est ce que nous dit ce commandement, c'est de respecter, entre guillemets, les petits dieux terrestres que sont nos parents, qui nous ont donné la vie à l'image de Dieu, qui lui nous a donné la vie à l'étage supérieur. Honorer nos parents, une fois que tout le reste de notre, que le début de notre pyramide a été bien en place, c'est dire, j'ai parfaitement compris qui est Dieu, la vie qu'il est, la vie qu'il donne, et à mon tour, en respectant mes parents, je respecte Dieu à travers mes parents. C'est pas simplement une question d'ordre social, ils t'ont nourri, ils t'ont torché les fesses quand t'étais petit, donc, non. Ils t'ont donné la vie. Donc c'est cette vie-là qui est à l'image de ce que Dieu t'a donné. Donc, honorer tes parents, c'est honorer Dieu. Être cohérent dans notre relation avec nos proches les plus essentiels, ce qui fait que nous sommes là, selon la grande, le Dieu qui donne la vie, qui donne la vie, qui donne la vie, qui arrive jusqu'à nous, c'est continuer à construire notre pyramide. Mais si on honore nos parents sans les quatre socles précédents dont j'ai parlé, c'est de l'humanité, c'est normal, c'est de l'instinct, mais à un moment ou l'autre, ça peut ne pas résister à des intérêts d'héritage, à des frustrations d'enfant qui n'a pas été élevé comme il le souhaitait. Mais si on remet l'honneur qu'on doit à nos parents, le sens de « c'est la vie qui m'a été transmise par eux », eux n'ont été finalement, comme il a dit aussi, que le vase de cette existence, ça devient tout à fait différent. Et alors, une fois qu'on a respecté ceux qui nous ont donné la vie, l'étape suivante, c'est le sixième commandement, c'est de ne pas l'ôter à quelqu'un. Le sixième commandement, gardez-nous du meurtre. C'est logique. Je reçois cette vie, et bien, le commandement suivant, celle que tu as reçue, toi, tu ne vas pas l'enlever. Ne reprends pas ce que tu as reçu. Ça va beaucoup plus loin que tu tues pas, parce qu'évidemment, si tu tues, tu fais de la peine à tout le monde, et c'est dramatique, t'as pas le droit. C'est logique. Comment veux-tu enlever ce que tu as reçu? De quel droit? Et on passe au septième commandement, qui est dans la même logique, ne point commettre d'adultère. On est passé de la vie qu'on a reçue de nos parents, la vie qu'on ne doit pas enlever, et maintenant, on passe à l'étape suivante, la vie qui est transmise. Elle passe par la relation partagée, confiante, unique entre un homme et une femme, et l'adultère, c'est la non-transmission de la vie. Il y a des enfants qui se font dans l'adultère, vous m'avez compris. Mais symboliquement, un adultère, ce sont des moments volés. Ce sont des vies volées. C'est-à-dire que c'est l'image d'une transmission qui n'est pas faite sainement, qui n'est pas faite proprement, qui est faite sous le manteau, si je puis dire. C'est pas comme ça que la vie doit se transmettre. Donc, honore tes parents, la vie qu'ils t'ont donnée, ne prends pas cette vie que tu as reçue, ne tue pas, et ne va pas commettre d'adultère qui risquerait d'être une transmission de la vie qui ne serait pas la bonne façon, qui serait malsaine, qui serait viciée dès le début. C'est cet adultère-là dont parlent les commandements. Alors évidemment, il y a le côté moral que vous comprenez, mais il y a une logique. Résumons. Les commandements 1 à 4, base de notre pyramide, Dieu existe, Dieu est tout. Je ne l'invoque pas en vain parce que je le respecte et je trouve du temps dans ma relation avec lui pour que tout ça soit bien cimenté. Une fois que ça est en place, je m'occupe de ma vie à moi. J'honore la vie que j'ai reçue. Je ne porte pas atteinte à la vie des autres et je transmets la vie, mais de la bonne façon. Et ensuite, une fois que tout ça est bien en place, on arrive au sommet de notre pyramide. C'est les commandements 8 et 9. Tout ce que nous venons de voir, ça va entraîner des obligations dans l'existence de tous les jours pour partager le quotidien avec nos semblables, une fois qu'on est sûr de nos sept premiers étages, en quelque sorte. Et le huitième, c'est ne point voler. Pourquoi? Parce que le vol, c'est la confiance trahie Le vol, c'est la fin de la vie sociale. C'est le début de la suspicion, des portes qui se ferment, des regards inquisiteurs. Anecdote, il y a un club de football qui s'appelle l'OGC Nice, qui est pas loin. Donc c'est tous des millionnaires. Ils ont un vestiaire. Et là, il y a un nouveau joueur qui est venu, un Danois qui s'appelle Dolberg, avec une belle montre à 100 000 euros. Après, il a 20 ans, le gamin, il gagne 600 000 euros chaque mois, donc il se paye une montre à 100 000 euros. Et un jour, la montre, dans le vestiaire, elle est volée. Ils sont 20 joueurs professionnels. C'est un des joueurs professionnels qui a volé la montre d'un de ses copains. Pendant 3 matchs, il perd de tout, parce que forcément, ça se passe bien. Et finalement, on retrouve un des joueurs qui a volé, pour que lui-même, c'est un jeune de 18 ans, de grâce, d'ailleurs. Ah, ils sont beaux, les grassois. Qui déjà en était à 60 000 euros par mois à 18 ans. Il avait volé parce qu'il était jaloux de ce joueur vedette qui gagnait plus que lui, il a pris sa montre. Bon, je vous dis ça parce que j'aime bien parler football, mais en dehors de ça, c'est vous dire que rien que ce petit détail d'une montre qui finalement n'est pas de valeur pour eux en tant que tel, a créé une telle zizanie dans le groupe que le club en a énormément souffert. Parce que qui dit vol dit propriété. Si je vole quelque chose à Georgette, c'est que ça lui appartient. Sinon, je ne lui vole pas. Je lui emprunte pas ça. Elle se sentira pas agressée. On ne peut voler que ce qui ne nous appartient pas. Ou se faire voler que ce qui nous appartient. C'est donc que nous avons le droit de posséder des choses. Si on dit tu ne voleras pas, ça veut dire que l'autre, en face de toi, il y a des choses qui lui appartiennent. Parce que, au-delà des choses superflues, il ne s'agit pas d'avoir trop de choses à soi, c'est que ce que nous possédons est un marqueur de notre identité. Donc le vol, ça devient une usurpation d'identité, un reniement de l'autre, de celui qu'on a volé. On a tous, j'espère pas, pour moi ça m'est arrivé une fois, été cambriolé, c'est un sentiment terrible. Ah, c'est pas ce que nous a pris, les assurances fonctionnent, on tient vraiment les photos et tout, ils ne le volent pas, mais on est un sentiment de désappropriation de soi-même. C'est extrêmement perturbant. C'est ça que ça veut dire, ne point voler. Encore une fois, au-delà de l'aspect moral, c'est que si tu voles quelqu'un, tu casses le lien, tu casses la confiance, tu casses ce qui tisse notre relation les uns avec les autres. Pour reprendre l'expression à la mode, c'est l'explosion du vivre ensemble. C'est pour ça que quand les gilets jaunes manifestent, il y a plein de choses pour lesquelles on est d'accord. Encore une fois, je ne fais pas plaisir. Et quand on apprend que, hier encore, il y a eu des pillages, ils ont pété des trucs, ils ont volé, on se dit, mais c'est pas possible, il y a un grand, grand hiatus. Parce que tu peux pas réclamer quelque chose et de l'autre, aller voler sous prétexte que ça te manque. Le vol va bien plus loin que le simple, la simple perte d'un objet. C'est le reniement de ton identité. Donc s'il nous est dit, curieux, quand même, c'est un commandement énorme, ne point voler, il n'y en a que 10, il aimait ça parce que tu voles quelqu'un, ça veut dire que tu dis à cette personne, je te renie, je ne t'accepte pas dans ton identité, tu n'es rien pour moi, en quelque sorte. Et ça tue, on était dans l'horizontalité, ça tue le vivre ensemble, ça tue la capacité que nous avons humains à être ensemble dans nos pyramides. On monte. Admettons, on ne vole pas. Il y a un 9e commandement qui arrive. Qu'est-ce qu'il va nous inventer, celui de Joseph, à l'étape, ne pas rendre le faux témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue dans le reniement de l'autre. Il n'est pas dit, il ne faut pas mentir, c'est souvent traduit comme ça. J'ai regardé les textes, a priori les textes hébreux, c'est vraiment ça, ne pas rendre le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est un terme de justice. La justice, c'est un endroit, tribunal, où on règle les conflits. Le mensonge, à la limite, c'est la sphère privée. Je mens à Tahar, c'est entre lui et moi, ça peut-être avoir quelques interférences dans notre vie autour, mais ça reste de la sphère privée. Si on parle de faux témoignage, c'est que c'est un problème qui a été mis dans l'espace public. Je dirais que c'est l'échelon au-dessus du vol. C'est peut-être pour ça que c'est le commandement après le 8. Parce que le faux témoignage, ça compromet l'équilibre d'une société. Parce que s'il y a un procès, c'est qu'il y a un moment de crise qui a été vu, répertorié, accepté. On a dit, il y a un problème. Donc on va en parler, on va résoudre ce problème. Et le faux témoignage empêche la résolution de ce problème. le faux témoignage ne permet pas à la société de réguler les situations de conflit. Donc ne donne pas de faux témoignages, parce que tu ébranles les bases de la société des hommes dans laquelle tu vis. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'aux USA, qui est un pays chrétien, au moins dans sa constitution, tu verras si je me trompe, puisqu'on jure sur la Bible, dire toute la vérité, etc., le mensonge, à la barre, est un crime puni. C'est-à-dire que l'affaire Clinton, par exemple, il a été bien plus puni pour le mensonge d'avoir dit qu'il avait fait ça que le fait d'avoir fait ce qu'il avait fait que Monica Lewinsky. En France, non. Et laïque, en France, non. Le mensonge, et j'ai écouté un avocat qui défend le Landais, là, il s'appelle Jemisky, c'est plus très bon, il disait, mais le mensonge en France, c'est une arme de défense tout à fait légale. On ment, on peut mentir, et si vous êtes pris en flagrant délit de mensonge dans votre défense, on ne peut pas vous le reprocher. Après, les juges, ils vont dire, ce gars-là a menti, il s'est moqué de moi, donc je vais lui en mettre plus. Mais à aucun moment, ça peut intervenir dans l'acte final, quand on donne la punition, voilà. Et le faux témoignage, c'est l'explosion des règles de la société. Le plus extraordinaire, c'est Cahuzac sur l'histoire de... C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, quand on peut aller dans le faux témoignage, dans les petites choses comme dans les grandes choses, on accepte objectivement de dire « j'en ai rien à faire de la société, mon intérêt avant tout, j'essaie de me sauver et je sabote les règles qui sont là ». Donc il ne s'agit pas de ne pas mentir. C'est vraiment les commandements 8 et 9, ne point voler, ne point rendre de faux témoignages, c'est les deux commandements qui, s'ils ne sont pas respectés, vont totalement saper la vie des gens entre eux. Si tu les voles, tu les renies dans leur identité, et si tu fais des faux témoignages, c'est la société elle-même que tu renies. Comment vivre dans ces conditions-là? Donc, résumons, on a vu 9 commandements. Le commandement de pyramide des 4 étages, Dieu est unique. Les 3 étages suivants, la vie est unique. Et les 2 étages qu'on vient de voir, l'autre est unique. Et il reste un commandement. Les 9 qu'on vient de voir, ce sont des commandements qui traitent de sphère extérieure à nous-mêmes, en quelque sorte. Des faits qu'à la limite, chacun peut voir chez l'autre. Les 4 premiers, Dieu est unique, je peux voir si tu me parles de Dieu, si tu pries, si tu viens au cul, si tu ne fais pas des prières inconséquentes. Ça peut se quantifier. Par rapport à tes parents, est-ce que tu les vois, tu t'en occupes, est-ce que tu as tué quelqu'un, est-ce que tu es un meurtrier, est-ce que tu es un coureur de jupons, après sur l'autre, est-ce que tu es un voleur, un faux témoin, enfin vous voyez ce que je veux dire, tout ça peut a priori se voir. Et on arrive au 10e commandement qui est au sommet de notre pyramide. Une pyramide c'est très large en bas et en haut il n'y a plus rien, une pierre. Et ben le 10e commandement c'est la dernière pierre. La seule qui reste, c'est sur le sommet. C'est presque une pierre invisible, tant elle est haute. On aura une pyramide, on regarde jamais là, on peut pas, on regarde ce qui se passe autour. C'est pour ceux qui ont la chance de voir celle en Égypte. C'est la pierre de nos désirs cachés. Que dit-il, ce commandement, selon Flavius, qui le résume, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à autrui. Et la liste est longue. Si on revient à Deutéronome et à Exode, là je vais le faire, tu convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au-delà du retour de la question de l'identité de l'autre à travers ses sentiments ou ses biens, il faut noter qu'il n'est plus question d'appropriation frauduleuse par le vol. Chaque chose dont on parle que l'on convoite chez le voisin, elle peut s'obtenir légalement. La femme de l'autre, je peux l'avoir, elle divorce, je l'épouse, légalement, c'est irréprochable. C'est valable dans les 2 sens, hein, je suis bien placé pour le savoir. C'est pareil, les maisons, je peux travailler plus, quelqu'un j'aime ta maison, elle est superbe, ben, si je viens avec un chèque de 1 million, même si tu l'aimes bien, tu vas me la vendre. Ça sera, hein, la vie. Tout ça est légal. Donc cette convoitise-là, elle n'est pas immorale. Elle est légale. On peut tout avoir légalement si on en a envie et si on s'en donne les moyens. Et donc, s'il s'agissait que d'un commandement pour nous prévenir d'un acte interdit qui entraînerait la convoitise, ça nous ramènerait à nos commandements 8 et à nos commandements 9. Mais celui-là, c'est un commandement qui parle du secret de nos pensées, celle que nul ne voit. Et qu'y a-t-il dans le secret de nos cœurs? Voilà, c'est ça la pierre ultime de la pyramide qui renvoie à toutes les pierres précédentes dont j'ai parlé. Convoiter ce que possède l'autre, même si on va l'acquérir légalement, c'est passer sa vie à regarder à hauteur de ses propres yeux, à hauteur d'homme. C'est donc oublier de lever les yeux vers Dieu. C'est oublier que Dieu existe. C'est effondrer sa propre pyramide. Ou plutôt, c'est construire sa propre pyramide par notre pierre à nous et monter dessus tous les étages de notre croyance. Donc, au lieu d'avoir une pyramide qui est comme ça, on va commencer comme ça. Dans notre pierre à nous, c'est ça que je veux. C'est ça, c'est moi. Et à partir de là, pour avoir ça, je me crée tout un corpus de croyances, de morale, de manière de vivre, jusqu'à me faire un Dieu avec différentes possibilités, pour que tout ça me permette de donner raison à ma petite pierre du début, qui me permet de convoiter ce qui ne m'appartient pas. C'est ça que ça veut dire, ce 9e commandement. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a au fond de nous, de nos cœurs, qui fait que on oublie de regarder Dieu et qu'on devient un homme totalement intégré dans notre société, qui peut très bien réussir, mais qui n'existe, qui ne vit qu'à hauteur d'homme. Donc ces 10 commandements, c'est la synthèse parfaite de l'ordre divin. Au début, il y a Dieu, puis on a vu, il y a l'humanité, et puis il y a moi, toi. Et il y a le deuxième, il y a l'intérieur de moi. Comme ces films, vous savez, on passe de l'infiniment gros à l'infiniment petit, on voit l'espace, puis là, les sangs, il y a la terre, et on voit la grâce, on voit la descente, puis on rentre à l'intérieur, et on voit les molécules. J'ai commencé cette prédication par la violence entre les gens, l'état de nervosité générale de notre société. Je dis que ça venait de la somme de malheurs personnels, ressentis ou réels, qui font un malheur collectif. Comme les sentiments qu'aujourd'hui, chacun traîne son propre bloc de pierre et fait sa mini-pyramide. Avec, forcément, à l'arrivée, ça ressemble à rien. Il n'y a plus de construction collective. Parce que si tout le monde est à peu près d'accord sur le 5 et le 6, qui sont, je vous rappelle, tu honoreras ton père et ta mère et tu ne tueras pas, personne ne s'entend sur 1, 2, 3, 4. Dieu est unique, c'est bien qu'il existe, il est unique, je ne sais pas, il y en a plusieurs, etc. Donc après, on en fait ce qu'on veut. Et quant à 7, 8, 9, 10, c'est chacun pour soi. Je vole si je veux, je fais témoignage si je veux, je convoite qui je veux, etc. Donc, forcément, notre société, c'est ça. C'est chacun sa petite pyramide, inversée en plus, et on essaye de vivre ensemble ça, alors que ce ne sont que des chocs de mini-pyramides. Si tous ces commandements étaient appliqués, les individus iraient mieux sans doute au sein d'une société qui suivrait les mêmes codes. C'est ce que font toutes les théocraties. Les théocraties, les démocraties, c'est un mode de fonctionnement où on fait des lois et on fonctionne au nom de Dieu. Actuellement, il y en a quelques-unes en Iran, par exemple, etc. Faisons pas les malins, parce qu'il n'y a pas si longtemps, nos systèmes royaux en Occident étaient aussi de droit divin. Donc ça, c'était la même chose. Hein. C'était pas les mêmes dérèglements, c'est autre chose. Imposer une morale, un mode de vie au nom d'un règlement divin, c'est efficace collectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, là, c'est beaucoup difficile, parce que comme on est devenu laïque, c'est très difficile à gérer collectivement la laïcité, puisque le socle de la pyramide sociale, tel que Dieu nous l'a appris, donc, autour de Dieu, ça n'existe pas par principe puisqu'on est laïque. On va faire du communitarisme, chacun va faire son propre socle de pyramide, et tout ça ne peut pas vivre ensemble. Macron, Emmanuel Macron, notre président, dans la crise des Gilets jaunes, il est on ne lui demande de régler que le 10. Ce que je convoite. Je veux avoir les moyens de mes convoitises. Je veux gagner plus, je veux qu'on me respecte, je veux pouvoir acheter ça. C'est pas juste lui et ça que moi j'ai ça. Donc, monsieur Macron, réglez-moi à coup de milliards, à coup de loi, mon commandement numéro 10. Travail sans fin, perdu d'avance à long terme, puisque la convoitise est un puits sans fond. Donc, mais nos sociétés laïques ne peuvent pas faire autrement que de résoudre ce problème du commandement numéro 10. Donc ça pose la question, est-ce que les 10 commandements seraient dépassés? Oui, ils sont dépassés. Sous l'angle de la morale à respecter, sous l'angle de notre vision laïque du monde, ils sont complètement dépassés et on est ridicule. Si on venait ici, et puis dès qu'on arrêtait les gens, disaient, mais venez, on a des commandements, on va vous faire comprendre, ils vont vous rayonner, et ils auraient à la limite raison. Et je terminerai par, évidemment, on peut pas faire une prédication sans parler de Jésus. Il y a des livres, comment faire une prédication, ils vous disent d'abord en gros, si vous n'avez pas parlé de Jésus une fois, vous n'êtes pas un prédicateur, vous êtes un one-man showman, etc. Je vois Emmanuel, Souris, Simon, Yann, nous sommes d'accord. Mais là, Jésus, je vais pas en parler juste pour être en règle avec la loi. C'est que Jésus était confronté au même problème. Il est né au milieu d'un peuple accroché à une loi issue de ses 10 commandements, qui est un carcan impossible à supporter. Déjà, il avait cassé du 5 à 9 lorsqu'il dit, on dit ne vous ne volez pas, mais quand vous pensez à voler, c'est comme si vous l'aviez fait. Tu ne commettras pas d'adultère. Quand tu as vu cette femme qui t'a eu une mauvaise pensée, ça y est, l'adultère, il est fait. Donc il a déjà cassé le moule des commandements de ce monde théocratique dans lequel il était arrivé. En fait, Jésus, ce qu'il a fait comprendre aux gens, c'est que ce fameux commandement 10, tu ne convoiteras pas, lui, il l'a mis à la puissance 10. Parce que le fait même d'imaginer que tu puisses le convoiter, en ça, déjà, tu as tout faux. Alors, lui, devant la demande de tous ses disciples, des suiveurs qui voulaient des miracles, qui voulaient une révolution politique, lui va donner la clé de la pyramide imprenable. Non pas en abolissant la loi, vous le savez, mais en l'accomplissant. Et de quelle façon? Vous le savez aussi, en donnant un nouveau commandement. C'est ce qui est marqué dans Jean 15, 12, il dit « Je vous donne un commandement ». A priori, j'ai regardé, c'est la seule fois où il donne le mot, enfin il dit, je vous donne un commandement. Et le mot n'est pas gratuit. C'est le 11e commandement que vous connaissez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a une virgule au milieu. Je sais pas si ça dit en hébreu ou en grec, mais moi je joue avec. Aimez-vous les uns les autres. Virgule. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est l'ordre moral, c'est l'ordre laïque, c'est déjà très bien. Mais ça marchera jamais. Comme je vous ai aimé, tac, voilà. Là, on a la clé qui nous permet de réussir, parce que le comme je vous ai aimé, il mêle l'horizontale de aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, ça va donner tout le ciment, tout le béton, tout le lien pour que ça puisse fonctionner. Parce que la morale n'est rien sans l'amour. La morale des 5, 6, 7, 8, là. La foi n'est rien sans l'amour. On pourrait très bien dire, mais il y a des gens, mais je crois, les juifs de l'époque, mais aujourd'hui plein de gens, mais je crois qu'il y a un Dieu unique, j'ai toutes mes couches de ma pyramide, il est unique, je le vénère, il est tout, etc. Je ne l'implore pas en vain, je ne vole pas, je respecte mes parents, etc. Mais tout ça n'est pas fait au nom de l'amour. Tout ça est né, à la limite, est fait au nom de la tradition, d'une forme d'intelligence, de l'éducation, voire de la peur, mais c'est pas fait au nom de l'amour. Et d'ailleurs, il le dit souvent, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Jésus, lui, va inverser la pyramide. Alors, nous aussi, on l'a inversé, avec notre petite pierre, mais ça tient pas debout, jusqu'à sa gueule tout le temps. Lui, dont on dit qu'il est la pierre unique, la pierre d'angle, ce petit caillou, eh bien lui, il va inverser tous les commandements. Il va pas les abolir. Il va dire, on va partir de moi maintenant. Moi, je suis l'amour absolu. Comme je vous ai aimé. Ok? Maintenant, on va partir du 10. Tu vas pas convoiter, tu vas pas ça, tu vas pas vouloir toujours être centré sur toi. Sur toi. Tu vas être centré sur moi parce que tu es contre moi. Puis ensuite, on va remonter. Tu ne vas pas le 8 et 9, tu vas pas faire de rendez-vous. Faut témoignage parce que la société, tu vas l'aimer, ça va, tu vas pas voler, parce que l'autre, autour de toi, tu ne vas pas lui voler son identité, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu vas le meurtre, tu vas respecter la vie, et tout ça, cet amour-là, il va remonter jusqu'à Dieu, d'où tout vient, d'où tout provient. Et imaginez, ce petit caillou, c'est Jésus. Il a tout inversé. Et donc, la fameuse, encore M. Macron, qui disait le fameux ruissellement qui profite à tout le monde, et là, c'est un ruissellement d'amour. Il part d'en bas. Donc, de Jésus qui a tout donné, ça remonte là-haut, et de là-haut, Dieu aussi nous refait retomber tout cet amour. Et on est pris entre ces deux sources d'amour extraordinaire. Et à partir de là, les commandements, ils ont du sens. On est irrigué d'en bas par Jésus. On est irrigué en haut par son Père Dieu. Et c'est pour ça que le monde est si fragile. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment, et je m'excuserai sur ça, je m'excuse d'avoir été long, ce sentiment de mal-être dans la société, de violence. Parce que les pyramides sans Jésus ne fonctionnent pas, elles sont individuelles, je l'ai expliqué. Et nos petites pyramides à nous, chacun, Jésus tient chacune de nos pyramides. Il est là, avec des millions de bras pour essayer de tenir. Il n'y a que lui qui tient le monde à peu près correctement. Jésus tient toutes les pyramides de chacun par le sommet qui est notre pierre première, celle de notre cœur. C'est ce qui nous tient en équilibre. Sans Jésus, tout s'effondre. Notre pyramide à nous, elle s'effondre. Toutes nos difficultés que nous avons à rentrer dans ces commandements-là, on en a compris le sens, mais tout vient d'eux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ce moment-là, on peut de nouveau retomber dans les commandements donnés par Moïse. Merci.